Merci beaucoup, Monsieur Duchet. En effet, comme toujours, je parlerai de l'œuvre. Je vais reformuler le titre de ce petit exposé, La théorie du chaos et l'œuvre de point, peinture, virgule, structure, virgule, thématique. Dans l'œuvre, le terme chaos est utilisé par Zola vers le début du chapitre 9 pour décrire un aspect de la première ébauche du dernier grand tableau de Claude Lantier, La cité de Paris. Je cite, « De ce travail héroïque, il sortit une ébauche magistrale, une de ces ébauches où le génie flambe dans le chaos encore mal débrouillé des tons. » Fin de citation. Il s'agit donc d'un état chaotique primitif qui, débrouillé par la suite, c'est-à-dire tout brouillard dissipé, doit dévoiler les contours précis et clairs de sa nature profonde. Un ordre caché sera enfin révélé. Nous y reviendrons. Mais dès les premières pages du roman, on rencontre des synonymes du terme chaos, tels que désordre et confusion, appliqués au grenier que Claude occupe au début du roman. Claude vivait là dans un désordre abominable. Christine est stupéfaite d'un tel désordre et d'un tel abandon, et étonné devant ce grenier haut de 5 mètres, empli d'une confusion d'objets. Dans le parler courant, le terme chaos signifie le domaine du hasard pur, un domaine amorphe au mouvement discontinu et imprévisible. Dans la théorie du chaos, en revanche, chaos signifie hasard contraint, mouvement discontinu et complexe, mais non pas fermé à l'analyse, ou encore mouvement ordonné qui se cache derrière une apparence de désordre. La théorie du chaos est d'origine française. Cette théorie, la plus récente des théories scientifiques à être appliquée au domaine littéraire, a comme source lointaine les recherches topologiques publiées vers la fin du XIXe siècle par le mathématicien Henri Poincaré. Longtemps négligée, ses recherches se renouvellent depuis 1960. Monsieur Quéré, ce matin, a mentionné les travaux de René Thom. Renouvelés surtout dans l'application des ordinateurs à divers domaines scientifiques, mathématiques, statistiques, physique, chimie, météorologie, astronomie, médecine, psychologie, économie politique, architecture, etc. Maintenant, 100 ans après Poincaré, cette théorie, adaptée à l'analyse des textes, est en train de constituer l'avant-garde de la théorie littéraire des années 90, au moins aux États-Unis. Ici en France, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est une question aux États-Unis aussi, je veux dire. L'essentiel de la théorie du chaos consiste en quatre principes formels. Ordre caché, hasard contraint, non-linéarité et autoressemblance. C'est-à-dire, ordre caché d'abord, ordre dissimulé derrière une apparence de désordre. Deuxièmement, hasard contraint, c'est-à-dire mouvement erratique à l'intérieur de limites établies. Troisièmement, non-linéarité, c'est-à-dire disproportion entre cause et effet, représentée par ce qu'on appelle l'effet papillon, ce qui est défini par comme le rôle déterminant des conditions initiales. Et quatrièmement, autoressemblance, typiquement représentée par les fractales, mot inventé bien sûr, c'est-à-dire une forme irrégulière qui se répète d'échelle en échelle. Dans l'œuvre, le thème du chaos s'organise autour de Claude, à commencer par le désordre de son atelier, qui reflète son état d'âme intime. Il est vrai que la vie qu'il mène ne paraît nullement désordonnée, en ce sens qu'il est chaste, mais cet ordre-là accuse un caractère pathologique. Il ne fait jamais monter de femmes chez lui, et Zola indique son peu de pratique des femmes, mais on nous parle aussi de sa curiosité charnelle, de son désir combattu, et son sommeil est tourmenté par des rêves érotiques qui reflètent sa frustration sexuelle, comme nous l'a dit M. Crivel d'ailleurs. C'est ce désordre qui sous-tend sa vie chaste, qui est extériorisé dans le désordre, la confusion de son atelier. Un autre exemple d'ordre pathologique est fourni par le jury du salon dans l'œuvre, composé surtout de peintres académiques qui serrent les rangs de façon rigide pour se défendre contre la marée montante de la peinture blonde. Ce type d'ordre masque un profond désordre, pour ne pas dire désarroi. Le désordre psychologique de Claude ne sera pas cependant pas résolu par sa liaison sexuelle avec Christine. Il couche avec elle, se fait une vie avec elle, mais ne l'épouse que bien plus tard, malgré le fait que lui, au fond, n'avait contre le mariage que ses anciennes préventions d'artiste débridé dans la vie. À la différence de Sandoz, ce littéraire si bourgeoisement ordonné qui se dépêche de se marier. Sur le plan de la forme littéraire, comme sur celui de la sexualité et de la vie de famille, c'est bien Claude l'ennemi de l'ordre et le vrai révolutionnaire, quoi qu'en dise Sandoz à propos de ses propres conflits avec le public bourgeois. Ce dernier, c'est-à-dire Sandoz, prône et pratique la solidité et la logique, alors que Claude, faiseur d'ébauches magistrales, dépend bien davantage de l'intuition et de l'inspiration. C'est peut-être en partie pour cette raison que Claude n'arrivera jamais à convaincre ses critiques, ce qui n'est pas le cas pour Sandoz. Une évolution, sans doute significative, paraît se produire entre le désordre du premier chapitre et le chaos du neuvième, car ce manque d'ordre est passé de sa vie, l'atelier en désordre, dans son art, l'ébauche en chaos. Cette évolution est d'ailleurs déjà préfigurée par les trois académies peintes de ses débuts. Malgré leur perfection, sans désordre ni chaos, ces dernières suggèrent, par leur fragmentation du corps féminin, une certaine dislocation, symbolisée par le nom de la rue de la femme sans tête et confirmée par la mutilation du corps du grand nu de son premier tableau, plein air, resté longtemps sans tête. Dans plein air, cependant, il y a une certaine cohésion thématique provenant du caractère de thème reçu, de topos même, représenté par le nu situé dans un paysage. Dans son dernier tableau, La cité de Paris, le nu sera affiché au beau milieu de la ville de Paris, ce qui rompra la logique du thème, l'unité du ton. Malgré leurs différences très marquées, Sandoz et Claude se ressemblent de deux façons au moins, en dehors de leur commune origine méridionale. Ce sont des révolutionnaires tous les deux en ce qui concerne les thèmes qu'ils traitent, et chez l'un et l'autre, il y a des incohérences dans la conduite comme dans les attitudes. Sandoz s'imagine, ou tout au moins il prétend, que son esthétique est révolutionnaire par la forme, comme l'est celle de Claude. Il dit « C'est la forme qui les enrage en moi, la phrase écrite, l'image, la vie du style. » Fin de citation. En fait, rien ne paraît plus faux. C'est uniquement par le choix des thèmes qu'il est révolutionnaire, comme Claude. Je cite « Son étude nouvelle de l'homme physiologique, le rôle tout-puissant rendu au milieu, la vaste nature éternellement en création, la vie, enfin, la vie totale, universelle, qui va d'un bout de l'animalité à l'autre, sans haut ni bas, sans beauté ni laideur, et surtout l'acte sexuel, l'origine et l'achèvement continu du monde, tiré de la honte où on le cache, remis dans sa gloire sous le soleil. » Fin de citation. Sa prétendue originalité formelle se réduit à une simple question de vocabulaire. Les audaces de langage, la conviction que tout doit se dire, qu'il y a des mots abominables nécessaires comme des fers rouges, qu'une langue sort enrichie de ses bains de force. Cela revient en grande partie à une question de thème. Pas uniquement, bien sûr, on peut traiter un même thème de plusieurs façons différentes, mais Sandoz est conservateur par la configuration des phrases, longueur, syntaxe, etc., comme par la structure des romanciers, organisation de l'intrigue, logique déductive, unité de ton, obéissance à des conventions comme celle d'introduire une intrigue d'amour, etc. Il y a donc incohérence entre ces thèmes qui sont révolutionnaires et sa forme qui ne l'est guère. En plus de cette incohérence simultanée ou synchronique, Sandoz, dès qu'il commence à vraiment réussir dans sa carrière d'auteur, se révèle avoir des goûts extrêmement romantiques. Je cite, « Le salon qu'ils achevaient d'installer s'encombrait de vieux meubles, de vieilles tapisseries, de bibelots de tous les peuples et de tous les siècles. Et lui contentait là d'anciens désirs de jeunesse, des ambitions romantiques, nées jadis de ses premières lectures. » Si bien que cet écrivain, si farouchement moderne, se logeait dans le Moyen-Âge vermoulu qui rêvait d'habiter à 15 ans. Le salon, à la vérité, éclairé par deux lampes de vieux Delft, prenait des tons fans et très doux et très chauds, les ors éteints des dalmatiques réappliqués sur les sièges, les incrustations jaunies des cabinets italiens et des vitrines hollandaises, les teintes fondues des portières orientales, les 100 petites notes des ivoires, des faïences, des émaux, pâlies par l'âge et se détachant contre la tenture neutre de la pièce d'un rouge sombre. Sandoz avoue que ce qu'il cherche, c'est de l'allure et de la couleur. Il était tout pour le décor, pour les grands effets d'ensemble. Cela ne cadre guère avec l'esthétique naturaliste, si terre à terre, que Sandoz a pratiqué et pratique toujours dans ses romans. L'incohérence esthétique de Claude est beaucoup plus diachronique que celle qu'on a trouvée chez Sandoz. Claude évolue du naturalisme au symbolisme en passant par une phase impressionniste, comme Manet et Cézanne. J'ai étudié cela dans détail ailleurs, inutile d'y revenir encore une fois ici. Comment les principes formels de la théorie du chaos s'appliquent-ils à l'analyse d'un texte comme l'œuvre ? Il y a certainement bien des apparences de désordre dans ce roman, à commencer par la folie supposée de Claude. Et cependant, et malgré la lésion de son œil et son incapacité de finir, la prétendue folie de Claude, constatée par le public et les peintres traditionnels, n'est pas vraiment de la folie. Ce que c'est une volonté farouche dans la recherche d'une formule radicalement différente, susceptible de renouveler la peinture. Il s'agit non pas de la folie, ni d'un esprit désordonné, ni d'un manque d'ordre, mais d'un ordre si complexe et obscur qu'il est caché aux yeux des profanes. C'est là la définition même de l'ordre chaotique. Examinons un exemple de désordre, de caprice apparent. C'est la décision de la part de Claude de peindre des terrains lilas et des arbres bleus. Cependant, ce n'est pas une décision arbitraire, loin de là. Elle est fondée sur une perception très exacte des couleurs et des ombres. Je cite, « Un jour que Christine osait se permettre une critique, précisément à cause d'un peuplier lavé d'azur, il lui avait fait constater sur la nature même ce bleuissement délicat des feuilles. C'était vrai pourtant, l'arbre était bleu. » Fin de citation. C'est dire qu'il y a en effet un ordre sous-jacent, l'ordre de l'observation scientifique. Cela est tellement inattendu pour les connaisseurs et les peintres académiques du jury du salon que la peinture de Claude est appelée une peinture de balai ivre. Pour eux, l'ordre qui préside aux observations de Claude est caché au point d'être invisible et même inconcevable. Tel est précisément le type d'ordre qui, caché avant l'arrivée de la théorie du chaos, fait maintenant l'objet des nouvelles recherches fondées sur cette théorie. Un autre principe chaotique, l'effet papillon. Un papillon qui bat ses ailes à Moscou aujourd'hui peut déclencher des tempêtes sur New York d'ici 3 mois. L'effet papillon est également représenté dans l'œuvre par le simple retard du train qui amène Christine à Paris au commencement du roman. Au début, Claude reste sceptique. Je cite, « Cette histoire d'accident, de train en retard, de cocher brutal, lui paraissait une invention ridicule. Il imaginait d'autres histoires. » Une débutante tombée à Paris avec un amant qui l'avait lâché, ou bien une petite bourgeoise débauchée par une amie n'osant rentrer chez ses parents, ou encore un drame plus compliqué, des perversions ingénues et extraordinaires, des choses effroyables qu'il ne saurait jamais. Fin de citation. Quand elle a raconté son histoire dans plus de détails le lendemain, et il finit par la croire, il fait la réflexion suivante. Ce qu'il avait imaginé, pour être simple et logique, était tout bonnement stupide à côté de ce cours naturel des infinies combinaisons de la vie. Fin de citation. Cela est assez absurde, car ses propres hypothèses sont infiniment plus romanesques que la vérité. Logique peut-être en un sens, mais pas plus que son histoire à elle, mais nullement plus simple. Au contraire, l'histoire de Christine est simple, logique, vraisemblable, nullement peu croyable, comme il le prétend à lui-même. Ce qui nous intéresse ici plus particulièrement, c'est le fait que, sans ce petit incident banal, le retard du train, elle n'aurait vraisemblablement pas rencontré Claude, rencontre qui finit par déterminer sa vie entière. Petite cause, grand effet, c'est l'effet papillon. Un autre exemple de l'effet papillon, tellement explicite qu'il n'a pas besoin de commentaires, c'est l'idée que Claude exprime dans le passage suivant. Est-ce qu'une botte de carotte, oui, une botte de carotte, étudiée directement, peinte naïvement dans la note personnelle où on la voit, ne valait pas les éternelles tartines de l'école, cette peinture au jus de chic honteusement cuisinée d'après les recettes? Le jour venait où une seule carotte originale serait grosse d'une révolution. La fractalité chaotique est représentée par le principe de la fragmentation des couleurs, des contours et des sujets. Le sujet est fragmenté d'abord dans la répartition des parties du corps en académies séparées, ensuite dans la mutilation représentée par la femme sans tête, représentée deux fois, nom de rue, tableau, et enfin dans la mutation du dernier tableau qui se fragmente en paysage et nu féminin. Même combinaison naguère dans plein air, mais aucune fragmentation à ce moment-là, parce que là, la combinaison avait été logique et justifiée. Entre plein air et la cité de Paris, Claude passe par une phase impressionniste caractérisée par le jeu des reflets et la continuelle décomposition des couleurs. Cette décomposition d'une observation très exacte et qui contrecarrait toutes les habitudes de l'œil en accentuant des bleus, des jaunes, des rouges où personne n'était accoutumé d'en voir. Or, puisque l'impressionnisme décompose ou fragmente non seulement la couleur mais aussi la ligne, les contours se fragmentent dans les tableaux de Claude à cette époque. À propos d'un de ces tableaux, les Tuileries au fond s'évanouissaient en nuées d'or. Les pavés saignaient, les passants n'étaient plus que des indications, des taches sombres mangées par la clarté trop vive. Il y a aussi la fragmentation de la bande d'artistes amis. Ce roman est donc un roman de la fragmentation. Et Zola Sandoz, ce robuste constructeur de sagas, déteste la fragmentation. Il proteste contre elle dans une espèce de boutade panthéiste. Est-ce bête une âme à chacun de nous quand il y a cette grande âme? La fragmentation constitue ainsi une irrégularité formelle qui se répète d'échelle en échelle. C'est un fractal. Que peut-on conclure de ces brèves constatations et réflexions? Rappelons que dans la nature, il y a des mouvements continus et relativement simples, et aussi des mouvements discontinus et complexes qui n'ont pu être analysés avant l'élaboration de la théorie du chaos. C'est l'analyse du complexe et du discontinu dans la nature au moyen de cette théorie qui a révélé les quatre principes du chaos que j'ai cités au début de cette étude. À mon avis, l'impressionnisme, comme d'ailleurs le rococo auquel il renvoie de tant de façons, constitue le genre d'esthétique complexe qui se prête particulièrement bien à une analyse de type chaotique. L'œuvre se prête assez bien à cette espèce d'analyse, non pas parce que c'est un roman naturaliste, mais plutôt parce qu'elle essaie de présenter, dans sa complexité, la psychologie de la création artistique et littéraire, et aussi l'histoire de la peinture à cette période cruciale qui ouvre la voie à l'art moderne. Quant à l'avenir de ce genre d'études, son intérêt vient de son caractère interdisciplinaire et de la banqueroute de la déconstruction. La théorie du chaos est un formalisme qui pourra peut-être jouer le rôle joué naguère par le structuralisme, un autre formalisme. Il est vrai qu'il ne faut pas demander à un formalisme d'être ce qui n'est pas. Cependant, nous savons que le structuralisme a fini par déborder largement la simple méthode que Lévi-Strauss y a toujours vue. Cela l'a passablement irrité, d'ailleurs, comme nous le savons par des passages comme le suivant. On prétend expliquer des types d'ordre en les ramenant à des contenus qui ne sont pas de même nature et qui, par l'effet d'une contradiction singulière, agiraient sur leur forme du dehors. Il se peut que la chaologie subisse une évolution analogue. Cela ne m'étonnerait pas du tout. Une raison, c'est que cette théorie est, par sa nature même, orientée vers l'analyse de la complexité. Tout comme il serait bien inutile d'appliquer l'archétypologie à l'analyse du théâtre de Marivaux, où le style est si transparent, alors qu'il convient parfaitement au théâtre de Claudel, de même la théorie du chaos ne prendra sa vraie valeur qu'en application à des objets riches et complexes. Par exemple, les romans de Marcel Proust ou de Lucette Desvignes. Il en résulte bien des tentations auxquelles je ne crois pas qu'on résiste longtemps. En attendant, je crois que la théorie du chaos promet un renouvellement intéressant et enrichissant. Elle ne fait maintenant que ses premiers pas chancelants. Nous verrons bien à l'avenir ce dont elle est capable. Merci.